soir, dans une conférence de presse la semaine dernière, le gouvernement de la RDC, RGRC, condamne formellement l'ingérence des gouvernements étrangers dans les affaires intérieures congolaises. Selon son porte-parole, ces ingérences avilissantes et inacceptables dans leurs principes sont malheureusement défendues, entre autres par une certaine opposition congolaise. Quelle analyse faire de cette déclaration? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce lundi 11 juillet 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Jean-Thierry Mosenepo. Il est président de la Ligue de jeunes du parti politique Convention des Congolais Unis, CCU en sigle, parti membre de la majorité présidentielle. Il est aussi un des communicateurs de cette plateforme. Monsieur Mosenepo, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Eric Bilalé, cadre du MLC et assistant permanent du secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et des stratégies au parti. Maître Bilalé, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Moïla Tiembe, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques dénoncé en France. Professeur Moïla, bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci de nous suivre par son RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Le gouvernement de la RDC rejette et condamne formellement l'ingérence des gouvernements étrangers dans les affaires intérieures congolaises, a déclaré jeudi 7 juillet dernier son porte-parole, Lambert Mende Malanga, lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Lambert Mende a dénoncé le comportement des institutions parlementaires étrangères qui s'autorisent à délibérer, statuer et légiférer sur les affaires de la RDC. Pour lui, ces ingérences avilissantes et inacceptables dans leurs principes sont malheureusement défendues par une certaine opposition congolaise. On l'écoute au micro de Radio Capi.
Le gouvernement de la République remercie ses partenaires du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui ont spontanément offert une assistance pour l'enquête au sujet de ce nouveau crime inqualifiable de la rivière Njili, mais il estime qu'il serait plus efficace pour ce partenaire d'aider nos forces de sécurité en cessant de les déstabiliser et de les affaiblir par des campagnes infamantes fondées parfois sur des allégations du tout venant, insuffisamment avérées et souvent politiquement motivés. Ces ingérences avilissantes et inacceptables dans leurs principes sont, hélas, malheureusement, défendues par une certaine opposition congolaise, composée de compatriotes portés par des rancœurs personnelles et par des projets égocentriques contraires aux intérêts nationaux. En droit international, le terme « ingérence » ne s'entend que négativement. Ce concept ne peut donc pas être bénéfique.
C'était la Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Jean-Thierry Mosenepo, je rappelle que vous êtes président de la Ligue des jeunes du parti politique Convention des Congolais Unis, CCU en cycle. Vous êtes un parti membre de la majorité présidentielle. Vous êtes également communicateur de cette plateforme. Comment vous analysez-vous cette déclaration du porte-parole du gouvernement?
D'abord, il faut savoir que les propos de son Excellence Monsieur le Ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, entrent dans une logique. Une logique qui a d'abord été une dénonciation faite par le chef de l'État. Rappelez-vous, le 15 février 2015, lorsque le chef de l'État a eu l'occasion de parler avec les diplomates accrédités à Kinshasa, il a réitéré le besoin à ce que les responsables des missions diplomatiques puissent cesser de pouvoir utiliser ou pratiquer des questions qui ne touchent malheureusement pas à leur mission en gardant des contacts directs.
Thierry,
je vous donne un exemple simple. Imaginez qu'à l'époque, nous sommes en début 2015, la CENI décide de publier un calendrier où il est fixé de commencer par des élections locales. Il y a des ambassadeurs ici qui se sont permis de faire de points de presse pour dire que c'est une conception onéreuse et qu'il n'est pas question de commencer par cela. Alors que nous savons très bien que notre centrale électorale est indépendante, non seulement que le gouvernement ne peut pas donner des injonctions à la CENI, mais on conçoit mal que ce soit des missions diplomatiques qui se permettent de donner des injonctions à notre centrale électorale.
C'est des injonctions ou c'est des propositions que ces diplomates donnent ?
Madame, vous savez très bien qu'une proposition va dans le sens d'apporter des pistes de solutions. Mais lorsque, par exemple, l'envoyé spécial du président américain se permet de dire qu'il n'est pas question de commencer par des élections locales, je me demande si ce ton-là est un ton de proposition ou un ton d'injonction. Et lorsque l'on va au-delà de cela, ce n'est pas normal aujourd'hui que l'on puisse se permettre de critiquer la justice congolaise ou de critiquer le fisc congolais, puisqu'il a demandé à un établissement appartenant à un opposant de pouvoir régulariser sa situation fiscale, mais que l'on dise que c'est un acharnement politique. Cela ne se conçoit pas, surtout, et d'ailleurs dans le point de presse du ministre de la Communication et des Médias, il a relevé, sous d'autres cieux, il y a des citoyens, tels qu'en France, où M. Serge Dassault, qui est du parti de droite, qui a des démêlés en ce qui concerne sa fiscalité, mais qui a été condamné, mais on n'a pas vu un seul doigt se lever par rapport à cela. L'ancien président français, M. Nicolas Sarkozy, a aujourd'hui plus de 11 affaires en justice. Mais l'on ne voit pas là où on condamnerait cette question judiciaire parce que ça concerne un ancien président qui aujourd'hui appartient à la droite parce que la gauche est au pouvoir. Mais comment se fait-il donc qu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, on se permette même de se substituer à une cour d'appel pour demander à ce que les juges et les responsables des questions judiciaires de notre pays puissent revenir sur leurs décisions parce que c'est basé sur des opinions politiques. Cela n'a pas de sens.
Alors, il y a cet auditeur symphorien, Bidoya de Kananga, qui dit ceci: je suis d'accord avec le gouvernement congolais, car la RDC est un pays indépendant, elle ne doit subir aucune ingérence, mais il serait mieux de s'attaquer aux causes plutôt qu'aux conséquences. Cette ingérence ne pourra jamais cesser tant que la RDC restera indépendante, restera plutôt dépendante sur le plan financier, économique et sécuritaire de l'extérieur, et tant qu'il n'y aura pas de respect des lois.
Je pense que cela est très mal analysé parce que, je vous donnerai un exemple simple. La République démocratique du Congo a aidé l'Haïti lorsque ce pays a été frappé par un tremblement de terre sévère. Il y a un chèque qui a été envoyé par le gouvernement congolais à ce pays ami pour pouvoir se sortir de ce marasme. Mais je n'ai jamais entendu un membre de notre gouvernement ou le président de la République congolaise émettre des injonctions ou même des avis, ce qui serait d'ailleurs bénéfique, mais même des avis sur la façon dont ce pays est géré. Vous allez arriver à Port-au-Prince aujourd'hui, vous n'allez pas trouver qu'il y a une certaine condescendance congolaise par rapport à cela. Même tout à l'heure, notre pays a dépêché des éléments pour le maintien de la paix en RCA. Est-ce que cela donne le droit au Congo ou à tout autre pays qui participe à cette mission de maintien de paix de pouvoir donner des injonctions
si par
en Centrafrique?
Il y a des violations de droits de l'homme, on ne respecte pas les textes du pays, la RDC ne peut pas donner son avis sur la situation de la Centrafrique.
Justement, il faudrait donc, comme vous le dites, qu'il y ait des cas documentés de violations de droits de l'homme, qu'il y ait des cas spécifiques et prouvés des violations des textes, en ce moment-là, je pense.
C'est pas le cas en RDC?
Ce n'est pas le cas en RDC. Rappelez-vous qu'il y a aujourd'hui une documentation que le ministère de la Justice et des Droits Humains, garde des Sceaux, qui attend toujours en ce qui concerne les 51 personnes qui auraient été tuées par la police congolaise lors de l'opération Likofi 1. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas.
Merci, monsieur Monsenepo. Maître Eric Bilalé, cadre du MLC, assistant permanent du secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et des stratégies au parti. Quelle est votre lecture à vous par rapport à cette déclaration du porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende?
Oui, tout d'abord, je suis aux anges d'entendre M. le ministre de l'Information déclarer si haut qu'en droit international les concepts de l'ingérence n'est pas bénéfique. C'est totalement absurde du point de vue de droit international. Et aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec l'internationalisation des questions nationales, voire la nationalisation des questions internationales, et surtout avec la diffusion internationale de l'idéologie des droits de l'homme, il est totalement inconcevable qu'un ministre de la République affirme des choses aussi dangereuses telles que celles-là. Écoutez, madame, je ne voudrais pas revenir sur des exemples beaucoup plus volatiles tels qu'invoqués par mon contradicteur. Ici, invoquant les exemples de la France, de Nicolas Sarkozy et autres, revenons sur le plan pratique, madame. En droit international, certes, il y a le principe d'égalité souveraine des États et ses corollaires tels que celui des non-interventions ou des non-ingérences dans les affaires intérieures des autres États. J'adhère parfaitement à la résolution 26-25 de l'Assemblée générale de l'ONU, dénommée la déclaration relative au principe du droit international touchant les relations amicales et la coopération des États, n'est-ce pas, qui consacre l'indépendance et la souveraineté des États et le principe de droit de peuple de disposer à eux-mêmes. Ben, cela n'affecte pas du tout, n'est-ce pas, l'ingérence, n'est-ce pas, internationale, qui peut être humanitaire, et surtout dans la logique de la RDC, lorsqu'il s'agit des violations massives des droits de l'homme, cela n'empêche pas les puissances internationales qui veillent à la paix et à la sécurité internationale de pouvoir intervenir.
Alors, et là, je vous dis, ne reconnaît pas qu'en RDC, on est des cas de violation des droits de l'homme.
Non, ben écoutez, lorsque monsieur le ministre lui-même dit qu'il remercie le comité conjoint des Nations Unies, le bureau conjoint des Nations Unies, qui a enquêté sur les violations des droits de l'homme, et qui, parce qu'il y a eu des corps sans vie qui ont été retrouvés sur la rivière Ndjili, et il y a eu de fosses communes, vous vous rappelez encore, qui ont d'ailleurs appelé à la sanction, n'est-ce pas, économique des États-Unis contre le général Kanyama. D'ailleurs, c'est ça, même la logique des contre-mesures. Lorsqu'un État, n'est-ce pas, membre de la communauté internationale, parvient à violer massivement le droit international, surtout le droit international des droits de l'homme, il n'est pas exclu que d'autres États, au nom de la paix et de la sécurité internationale, puissent prendre des mesures telles que de représailles, et en cas d'espèce, il s'agit de sanctions économiques telles que du gel des avoirs, des saisies conservatoires des avoirs, et c'est acceptable en droit international. Ces genres de mesures ne violent pas du tout le droit international.
Et par rapport au processus électoral, comme l'a soulevé M. Thierry tout à l'heure...
Je le dis si bien, madame, parce que, vous savez, le processus, l'élection n'est pas un domaine exclusif de l'État. Et je le dis si bien en tant que juriste averti. L'élection est un domaine de coopération. Il y a des acteurs dans une élection. Il y a l'État organisateur de l'élection. Il y a la communauté international, parce que vous savez, dans le budget de l'État, il y a le trésorerie, madame. Un État ne vit pas que ses ressources propres. L'État recourt aussi à la coopération internationale. Et il y a des aides internationales. Et une élection qui caractérise l'expression du peuple, n'est-ce pas, à des acteurs. Il y a l'État lui-même qui peut être jugé. Il y a le peuple, mais également il y a la communauté internationale qui participe dans une élection. Et dans ce sens-là,
parce que la communauté internationale participe dans une élection, comme vous le dites, a le droit d'imposer ou de s'imposer,
non, madame,
ou
encore de donner des injonctions. On ne peut pas donner de l'argent. On ne peut pas donner de l'argent pour l'organisation d'une élection dont le victorieux est connu en avance. On ne peut pas donner de l'argent pour une élection qui n'aura pas lieu, dont la non-tenue est organisée de toutes pièces par le pouvoir en place. Et la communauté internationale, parce que sachant que au cas des non-organisation des élections, vous avez suivi le rapport de 21 juin dernier des agences des Nations Unies basées à Genève, qui considère la RDC comme en état en crise dans le mois qui suit à cause des non-organisation de l'élection. Et ces faits peut-être déclencheurs de la violation ou Merci. De l'instabilité dans les cadres de la paix et de la sécurité internationale.
Merci,
d'où la communauté internationale doit intervenir.
Merci, Maître Bilalé, professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique dénoncé en France. Professeur, comment vous analysez la déclaration du ministre Lambert Mende?
Ben, je pense, madame, qu'il faut faire la part des choses. Le ministre porte la parole du gouvernement. Donc, il ne s'agit pas de parler du ministre en tant que personne, parce qu'il porte la parole du gouvernement. Et je dois vous assurer que c'était un métier difficile. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, lorsque M. Max Gallo était pressenti et nommé ministre, porte-parole du gouvernement de M. Mitterrand, lorsque ce dernier a quitté ses fonctions, il a dit au monde entier combien c'était difficile de porter la parole du gouvernement parce que on reçoit les ordres de ce qu'il faut dire, qu'on soit d'accord ou non avec ce qui est la parole du gouvernement. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses entre la parole portée et la personne qui porte la parole pour éviter la diabolisation. Deuxième observation, le discours sur l'ingérence dans les affaires intérieures des États vient après l'autre discours qui est celui de la souveraineté de la République démocratique du Congo. On se croirait dans les années 60 ou dans les années 66 lorsque Mobutu nationalisait l'union minière en Gécamines et la diatribe contre l'Occident, la Belgique, etc. etc. De quoi s'agit-il? Évidemment, il est légitime que le gouvernement de la République démocratique du Congo ou d'autres gouvernements français ou américains s'opposent à l'ingérence dans les affaires intérieures des États. Ben, j'ai rappelé, comme il a été d'ailleurs rappelé sur le plateau, que la non-ingérence dans les affaires intérieures des États est le baromètre même du droit international. L'ingérence, lorsqu'elle est humanitaire, est une exception. La non-ingérence est la règle du droit international. Alors, tout est question de perception. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit réellement de l'ingérence au sens matériel du terme, au sens du droit international, ou bien de la perception qu'un État, à tort ou à raison, peut avoir du comportement de notre État? De mon point de vue, nous sommes dans la perception. Pourquoi? Parce que la question de la souveraineté de la République démocratique du Congo se pose à deux niveaux. Il y a la souveraineté juridique et la souveraineté matérielle. La souveraineté juridique repose sur trois fondements. L'État et la compétence de la compétence. Autrement dit, la République démocratique du Congo, comme les États-Unis, comme la France, en tant qu'État souverain, il détermine lui-même le niveau, le volume de sa compétence, sans se référer à qui que ce soit. Et cet élément est encore vrai jusqu'aujourd'hui. Les lois de la République démocratique du Congo ne sont pensées, inscrites, débattues et rendues en droit que par le pouvoir congolais lui-même. La souveraineté, c'est également l'autonomie de la compétence. C'est l'indépendance de chaque État souverain à déterminer ses propres règles et de les appliquer conformément à ces lois. Et le dernier élément, c'est l'exclusivité de la compétence. Il n'y a que les autorités et les institutions légitimes et légales qui ont qualité en droit d'engager la responsabilité internationale des États. Or, sur ce point, rien n'a changé depuis les années 60, depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo. La situation de la RDC est autant la même que celle d'autres pays grands ou petits. Mais là où il y a la différence, c'est au sens de la souveraineté matérielle, c'est-à-dire la capacité de faire, la capacité de faire faire et la capacité d'interdire de faire, qui est l'élément de la redistribution de la puissance entre les États, c'est-à-dire l'élément sociologique et politique des nations dans le système international. Il y a des pays puissants, il y a des pays qui ne le sont pas. Alors, lorsque un État, au sens des États-Unis pour ne parler que des sanctions, à tort ou à raison, considère d'une manière unilatérale, parce que les sanctions qu'un État prend contre un autre État participent à ce qu'on appelle les actes unilatéraux des États. L'État en cause peut y répondre s'il en a les moyens. Mais ceci ne relève pas de la souveraineté juridique des États, parce que c'est un problème de capacité. Il y a des États qui ont la capacité, d'autres n'en ont pas. Pour revenir à la question des élections, organiser les élections en République démocratique du Congo, c'est un acte souverain de l'État congolais. Mais si l'État congolais, à tort ou à raison, n'a pas la capacité matérielle d'organiser ses propres élections dans les délais constitutionnels, l'État congolais remet en cause sa propre souveraineté par son incapacité matérielle, morale, politique, etc., à organiser ses propres élections dans les délais constitutionnels.
Merci, professeur.
À ce moment-là, ce n'est pas de l'affaire de pays étrangers, mais c'est un constat que l'État souverain n'a pas les moyens de sa politique de souveraineté.
Merci, professeur Moïla. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Thierry Mosenepo, voilà. Thierry, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Gustave Mukendi, à partir de Kananga. Quand les porte-parole du gouvernement condamnent l'ingérence occidentale dans ses affaires intérieures, mais moi je n'arrive pas à comprendre. C'est parce qu'il est demandé au président de la République de ne plus se présenter pour la deuxième mandat. C'est parce qu'il est demandé d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Ou c'est parce qu'il est demandé de libérer tous les prisonniers de l'opposition qui sont arrêtés. Ou bien c'est parce que le président général Kanyama est interpellé par les ISA. Si c'est pour tous ces éléments, la constitution de notre pays l'interdit.
Alors, comment répondre à cet auditeur? Est-ce que c'est parce que la communauté internationale demande d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, demande au président de ne pas se représenter? Est-ce que c'est pour cette raison que le porte-parole du gouvernement demande à cette communauté internationale de ne pas s'ingérer des affaires intérieures de la RDC?
Pas du tout, madame. Parce que d'abord, il faut savoir que si nous parlons d'ingérence, ce n'est pas parce que la communauté internationale est en train de demander au président de la République de ne pas se représenter. Le président de la République a dit qu'il va respecter la Constitution et il la respecte. Et de ce point de vue, la Constitution est claire en ce qui concerne le nombre de mandats. Deuxièmement, ce n'est pas parce que le général Kanyama a été directement condamné par les États-Unis en ce qui concerne le gel de ses avoirs, que nous parlons de cela, mais c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et je pense que le professeur Tshiembe a eu à le dire, la République démocratique du Congo n'est pas la seule nation qui subit ce genre d'ingérence. Et cette ingérence n'est pas seulement une ingérence qui se limite en termes de verbes, mais même en termes d'action de déstabilisation des pays. Beaucoup de gens ignorent, par exemple, que la guerre de 97 que le Congo-Brazzaville a connue, c'était une guerre qui a été décidée depuis Paris par la société Elf Aquitaine, qui a même donné des armes au général Mokoku pour déstabiliser ce pays, déstabiliser le gouvernement de Pascal Lissouba. Et donc aujourd'hui, on ne peut même pas vous dire ce qui s'est passé réellement avec des décisions prises au niveau de la CIA pour l'élimination physique de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Et cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Lorsque, par exemple, nous demandons de l'aide...
Alors cette communauté cherche à déstabiliser les pays africains,
non, madame, cette déstabilisation n'est pas une déstabilisation systémique. C'est quelque chose qui répond à des visions qui ne sont pas gérées par nous-mêmes. C'est cela le problème. Par exemple, lorsque le Congo veut, en 1960, accéder à l'indépendance, il y a d'autres grandes puissances qui ne veulent pas. Ce qui a conduit, malheureusement, à tout ce que nous avons eu à connaître dans ce pays, permettez-moi ce pléonasme, depuis 1960 jusqu'en 65, lorsque le maréchal Mobutu a pris le pouvoir. Donc, comprenez donc qu'aujourd'hui, si notre pays demande de l'aide en ce qui concerne la question électorale, cela ne signifie pas que nous ouvrons un pan d'ingérence. Parce que le cas de la Grèce, par exemple, qui aujourd'hui s'est remis debout avec des fonds venus de l'Allemagne, n'a pas donné le droit à Mme Merkel de pouvoir donner des orientations en ce qui concerne le choix des élections à faire dans ce pays. Encore moins ce que vit l'Italie aujourd'hui. Donc comprenez que ce que nous ne voulons pas et que nous n'acceptons pas, c'est par exemple que l'on puisse dire que la CENI n'a pas le droit de publier tel ou tel autre candidat. Que le MLC le dise, c'est un parti politique congolais, je lui donne ce droit. Mais que ce soit dit à partir de Washington, Cameroun, que ce calendrier électoral n'a pas droit d'exister. Cela n'a aucun sens. On ne peut pas être congolais à accepter cela.
Mais est-ce que ce n'est pas la RDC qui a ouvert cette brèche-là, la communauté internationale, aux pays occidentaux?
Madame, il faut d'abord reconnaître une chose, c'est que nous sommes un pays post-conflit. Et vous et moi, en tant que Congolais, à moins que nous souhaitions intentionnellement balayer l'histoire, nous savons que notre pays a été déstabilisé de l'extérieur par plusieurs mouvements rebelles, par plusieurs tentatives de groupes armés. Aujourd'hui, il y a des rapports qui existent, qui démontrent qu'il y a des sociétés inscrites en bourse au Canada et aux États-Unis, dans des pays anglo-saxons, qui ont armé des mouvements ici pour piller les ressources de notre pays. Le professeur a très bien dit qu'il existe des rapports de force. Il y a des grandes puissances et il y a des puissances faibles. Il est tout à fait normal que, quittant la colonisation, passant par une dictature sans mesure, passant par des déstabilisations, des guerres à répétition, que l'on en arrive finalement à un pays qui est en train de se redresser. Est-ce que c'est une honte par rapport à cela de demander de l'aide? Je crois que non. Je vous ai donné l'exemple ici.
Alors, ce n'est pas la première fois que la RDC
a eu à donner à l'AIC.
Ce n'est pas la première fois que la RDC dénonce cette ingérence, comme l'a dit le professeur. Ça ne change pas sur le terrain.
Justement, madame, pourquoi ça ne change
pas? C'est parce que le pays est un...
Pourquoi ça ne change pas?
C'est un pays faible.
Non, d'abord, il y a le fait que nous sommes un pays en redressement, il faut le reconnaître. Et deuxièmement, c'est parce qu'il y a encore des fils et filles de ce pays qui continuent à être le thuriféraire de ces néocolonialistes, malheureusement, qui sont encore mélancoliques
de ce passé colonial. Et là, vous parlez de l'opposition.
Je ne parle de personne, madame, mais je ne parle que de ces thuriféraires-là. Il y a des opposants respectables qui n'acceptent pas, par exemple, qu'ils passent par des ambassades avant de tenir meeting quelque part pour avoir des bouts de papier pour savoir quoi dire. Il y a des opposants qui sont respectables, qui ne veulent pas avoir des injonctions de certaines ambassades, qui chaque vendredi ne vont pas dîner à gauche ou à droite avec tel consul. Ils acceptent de pouvoir mener leur lutte selon les aspirations du peuple.
Merci, monsieur Thierry. Maître Bilalé, on va prendre aussi pour vous cette réaction, est-ce que nous vient de Kinshasa?
Innocent Bazibou à partir de Kinshasa. L'opposition congolaise actuelle est en train de calomniser la souveraineté nationale sans le savoir à cause de la recherche de soutien aux échéances électorales prochaines, oubliant qu'il n'y a aucun occidental qui entrera aux urnes congolaises. C'est pourquoi elle crée des scénarios imaginaires pour juste montrer l'incompétence du pouvoir en place, oubliant que cela disqualifie tout le peuple congolais en général. Toutes leurs réunions ne se tiennent qu'à l'extérieur du pays pour montrer que réellement les Congolais ne peuvent rien de lui-même. Le peuple congolais vous le demandera un jour.
Alors, on s'excuse pour la qualité du son. Comment vous répondez à cet auditeur, maître Bilalé, qui estime que l'opposition salit l'image du pays à l'extérieur? On vous voit tout le temps dans les ambassades quand il y a un petit problème, vous ruez vers les ambassades pour trouver la solution, alors qu'on peut trouver cette solution entre nous, Congolais.
Heureusement, vous constaterez avec moi que c'est une réaction antipatriotique, n'est-ce pas? Si je suis très content que je sois sur le plateau avec M. Moutsenepo, le président de la jeunesse de la CCI, une partie politique que je respecte beaucoup, de M. Lambert Mende, qui aujourd'hui crie au scandale contre la communauté internationale avec laquelle il a par ailleurs coopéré depuis des années. M. Lambert Mende, à titre de rappel, il a un CV intéressant, fut l'ancien du RCD Goma et RCD Boussa, suppôt du Rwanda. N'est-ce pas? M. Lambert Mende fut ancien membre du gouvernement Mobutu, suppôt de la CIA. Et surtout, ancien du gouvernement de Tshisekedi, suppôt de la Belgique. Vous vous souvenez encore du dédoublement institutionnel sorti de la conférence nationale souveraine où M. Lambert Mende, ministre des Affaires étrangères du gouvernement Tshisekedi, un gouvernement vert supporté totalement par l'ambassade de Belgique à Kinshasa, qui payait même ses voyages. Je me souviens encore une fois, M. Lambert Mende, en tant que chef de la diplomatie, porteur d'une lettre de plein pouvoir à une conférence à Genève, a été écarté de la conférence en faveur de M. Birindoa, qui avait l'effectivité du pouvoir, n'est-ce pas, du gouvernement du maréchal Mobutu. Donc, ça n'est pas à M. Lambert Mende qu'il reviendrait aujourd'hui, en tant que ministre de l'Information, de descendre dans l'arène politique aux fins de jouer la carte de l'escroc de l'estrade pour donner des leçons au peuple congolais. Il doit cesser de considérer les Congolais
mais
comme
tout ce que vous venez le
corbeau
là, c'est
de
le
la
passé.
Flable. Mais non, écoutez, parce que M. Moussinopoul a invoqué ça, tout ça, quand il parle des financements étrangers pour déstabilisation de la République, je donne un exemple patent d'un gouvernement vert qui n'avait pas l'effectivité du pouvoir, qui exerçait sous Manguié, sous les auspices de M. Étienne Tshisekedi, à l'époque Premier ministre, autoproclamé, n'est-ce pas, avec comme chef de la diplomatie de son gouvernement, M. Lambert Mende, qui d'ailleurs fut aussi dans la rébellion soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, le RCD Goma, n'est-ce pas, et c'était la communauté internationale qu'il fustige aujourd'hui, qui a financé ses activités militaires et paramilitaires avec comme objectif la libération de la République de la dictature. Ça n'est pas à lui qui reviendra aujourd'hui de critiquer les opposants, les accuser, les traiter de tout le monde.
Et vous pensez que c'est la communauté internationale qui peut trouver des solutions au problème des Congolais aujourd'hui, vous de l'opposition qui vous tournez vers ces ambassades ou ces pays étrangers?
Nous ne nous tournons pas vers ces ambassades. La communauté internationale a sa part majeure de responsabilité dans le rétablissement de l'ordre constitutionnel en RDC aux fins de suivi effectif d'un processus électoral. Et on voudrait que la République démocratique du Congo, à l'instar des autres États développés de la planète, n'est-ce pas, atteigne un niveau élevé de développement, atteigne un niveau de mobilité sociale progressive au travers d'une démocratie constitutionnelle stable. C'est ça la logique. Et avec l'internationalisation, n'est-ce pas, du droit constitutionnel, si vous lisez aujourd'hui les résolutions du Conseil de sécurité, maintenant la paix et la sécurité internationale, dans les cadres de la République démocratique du Congo, vous constaterez qu'on rappelle, on relaye, met foi, le respect des délais constitutionnels, le respect de la Constitution, même les dialogues prônés par la communauté internationale.
Mais est-ce que la communauté internationale a besoin de rappeler ça au chef de l'État puisqu'il sait qu'il doit respecter la Constitution?
Elle en a besoin forcément parce que il a été démontré par de nombreuses preuves que monsieur le président de la République, à sortie de son exécutif, ne sont pas chauds pour l'organisation de l'élection. Vous suivez dans les discours qu'on parle plus de dialogue que de l'élection, alors qu'il y a possibilité d'organiser l'élection.
Merci.
Et surtout la présidentielle.
Merci.
Dans les délais constitutionnels.
Merci, maître Milalé. Professeur, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bounia.
Luc Malembe, depuis Bounia, province de l'Ituri. Le ministre Mende semble oublier que la RDC vit depuis 15 ans sous protection de la mission onusienne la plus robuste au monde, entièrement financée par la même communauté internationale qu'il accuse aujourd'hui d'ingérence. Il semble également oublier que près de la moitié du budget national de la RDC est constitué des contributions diverses de l'aide au développement en provenance de ces mêmes pays, ce qui leur donne naturellement un droit de regard sur les affaires intérieures de la RDC. À mon avis, il devait commencer par assurer lui-même, sans l'aide étrangère, la sécurité de la RDC, élever son budget à un seuil acceptable avec les ressources propres, s'il veut vraiment que l'on parle d'indépendance ou de souveraineté pour le pays. C'est ce que les autres ont fait, notamment la Corée du Nord.
Professeur Moïla, vous êtes en ligne?
Oui, je vous écoute. Disons que notre ami de Bunia vient de faire le lien entre la République démocratique du Congo, la MONUSCO et la communauté internationale. Pour dire quoi? Pour dire que, en réalité, la République démocratique du Congo est membre des Nations Unies depuis 1960. Et l'ONU est aujourd'hui la figure même de ce qu'on appelle la communauté internationale. Lorsque le M23 fait peser des menaces à l'Est en prenant Goma, la République démocratique du Congo, dans son droit souverain, a saisi le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité s'est réuni et a pris une décision d'envoyer cette brigade armée aux côtés des FARDC pour bouter dehors les hommes du M23. Donc, le Congo, un État souverain, opère dans la communauté internationale librement, souverainement, et de cette souveraineté, il n'en a rien été en termes de regret, parce que le Congo a saisi le Conseil de sécurité et celui-ci a promptement agi. Mais pour que le Conseil de sécurité agisse, il y a les membres permanents, dont les États-Unis mis en cause ici. Mais savez-vous, madame, que toutes les résolutions durant la période de guerre de l'Est contre la République démocratique du Congo, pour assurer et réaffirmer la souveraineté de la République démocratique du Congo, la plupart de ces résolutions ont été initiées par la France et ont été votées unanimement par les États-Unis et l'ensemble des pays, entre guillemets, appelés la communauté internationale. Donc, si on regarde les faits, on ne peut pas dire que les États-Unis complotent contre la République démocratique du Congo, on ne peut pas dire que la communauté internationale, qui est un vocabulaire tout à fait, exagéré dans sa version actuelle, serait contre la République démocratique du Congo. L'exemple de la MONUSCO est là pour montrer que lorsqu'un État souverain, membre des Nations Unies, est menacé dans ses fondements mêmes, c'est-à-dire la sécurité des personnes et des biens, l'intégrité du territoire, l'ONU ne peut pas rester indifférente. Mais l'ONU, c'est qui, madame? Toutes les opérations de maintien de la paix, ce sont les États-Unis qui payent près de la moitié des charges du monde. Quand les États-Unis ne les payent pas, l'ONU est bloquée, rien ne peut être entrepris. Mais ce sont des faits communs. Donc, je pense qu'il y a peut-être des récriminations tout à fait légitimes dans les manières d'exprimer. Il y a peut-être des diplomates américains qui s'expriment d'une manière un peu galvaudée, que l'accent ne déplaît pas à la République démocratique du Congo, ce qui est tout à fait légitime. Le Congo peut se plaindre, soit des intonations, soit des propos qui, à un moment ou à un autre, peuvent blesser sa susceptibilité. Mais en réalité, on ne peut pas accuser objectivement la communauté internationale, encore moins les États-Unis, dans le cadre de la communauté internationale, j'entends, de pouvoir comploter contre la République démocratique du Congo. La preuve, le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous n'avons cessé, madame, sur votre micro, de rappeler que le président de la République n'a pas encore violé la moindre règle constitutionnelle de ce pays. Les États-Unis, comme l'ensemble des Congolais, exhortent le président de la République de continuer à résister contre toutes les pressions internes, externes, pour que la Constitution ne soit pas violée. Je ne vois pas en quoi le fait de soutenir l'action du chef de l'État, de lui demander de résister contre toutes les velléités internes, externes, serait une ingérence, serait contraire à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et tout ceci participe effectivement de ce climat un peu délétère, mais tout ça, il faut demander à tout le monde de savoir, à raison garder, qu'il y ait des propos qui blessent la République au sens du gouvernement. C'est tout à fait normal, et le gouvernement faut protester, et ça fait partie de la diplomatie.
Merci.
Mais aller jusqu'à considérer que la communauté internationale menace la souveraineté de la République démocratique du Congo, je pense que probablement, dans ce propos, la parole a dépassé la pensée.
Merci, professeur Moïla. Thierry Monsenepo, il y a Franck Samuel depuis Washington qui dit ceci. Je ne pense pas que ce soit une ingérence, mais plutôt la solidarité à l'endroit du peuple congolais pour nous accompagner sur le chemin de la stabilité constitutionnelle qui est la voie indiquée pour retrouver la paix et la concorde intérieure.
Je pense que c'est vrai que cette solidarité est importante, qu'il est nécessaire même que les peuples puissent se souder, mais ce que nous décrions, c'est justement ces ingérences multiples qui déstabilisent nos pays. Je pense que le prof Tiembe a oublié une chose, c'est que l'histoire démontre que c'est vrai, il y a eu des actes qui ont porté la déstabilisation à notre pays. Par exemple, que c'est depuis Washington qu'a été décidée la mise à mort de Patrice Emery Lumumba. Nous nous rappelons ici que c'est un ambassadeur américain qui a apporté une lettre de démission au maréchal Mobutu. Nous nous rappelons également que c'était à Paris qu'a été décidé qu'il fallait faire partir le président Pascal Lissouba parce qu'il a accepté de signer avec Occidental Petroleum et non avec Elf Aquitaine.
Mais au-delà de cela,
madame, nous ne savons pas. Mais au-delà de cela, madame, il est important que nous puissions rétablir la vérité. Je suis très content d'être avec Maître Eric ici, qui a démontré avec véhémence les leçons qu'il vient d'apprendre de son secrétaire général adjoint au petit lait, qui lui a appris un pan de l'histoire concernant la marche du ministre Lambert Mende, mais qui malheureusement a oublié que son excellence Mende n'a jamais travaillé avec le Rwanda en ce qui concerne une quelconque rébellion. que le ministre Mende a participé au gouvernement avec le président Mobutu dans le cadre d'un accord politique. Mais ce qu'on a oublié d'expliquer à Maître Eric lors du cours qu'il venait d'avoir, c'est qu'il fait partie d'un parti politique.
Mais il a quand même été aidé par les autres.
Il fait partie,
communauté internationale,
bien entendu,
aujourd'hui.
Il fait partie d'un... Il y a une différence. Le ministre attaque l'ingérence et non la communauté internationale. Il y a une différence, s'il vous plaît.
L'ingérence de la communauté internationale.
Mais madame, cela n'est pas attaquer la communauté internationale. Cette ingérence est faite par des individus et des groupes de pression, des groupes d'individus qui défendent des lobbies. Ça n'a rien à voir avec la communauté internationale en général. Mais je disais donc qu'il y a un pan de l'histoire qui a été oublié d'être administré à Maître Eric, c'est que le parti où il est membre est un parti d'anthropophages qui ont mangé des pygmées à Mambasa, qui a participé à une guerre à Kisangani entre l'armée rwandaise et ougandaise sur le territoire congolais. Et
alors,
cela a été rendu possible grâce au MLC.
Alors, pour vous,
et même, madame, s'il vous plaît, je finis par là, l'armée de l'ALC a été jusqu'à déstabiliser un pays qui est la Centrafrique, raison pour laquelle le président de ce parti se trouve à la CPI et non le ministre Lambert Mende.
Alors, pour vous, ce droit de regard ou cette ingérence doit cesser.
Madame, mais qui peut accepter de l'ingérence? Si on va même dans la plus petite cellule de la société qui est la famille, accepterez-vous que votre voisin, parce qu'il vous donne un peu d'eau quand chez vous il n'y en a pas, qu'il se permette de venir vous dire quelle est la couleur que vous allez mettre à votre salon ou quelle est la couleur de la jupe que vous allez acheter à votre fille? Cela est inacceptable, cela est inadmissible. Aujourd'hui, par exemple, il y a des pays africains qui demandent aux États-Unis de pouvoir prendre des sanctions contre les policiers.
Ça sera votre conclusion, allez-y.
Qui tuent les citoyens parce qu'ils sont noirs dans ces pays, mais qui malheureusement ne font rien parce que les États-Unis sont un État souverain. C'est la même chose.
Merci,
que nous réclamons
Thierry
en République démocratique du Congo.
Merci Thierry Mosenepo. Maître Eric Bilalé, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ou de cette conclusion de M. Mosenepo, qui estime qu'aucun pays ne peut accepter.
Avec mon moral au zénith, dire que M. Mosenepo s'est comporté en cordonnier au-delà de la chaussure. Il vient de tenir des propos un peu plus irresponsables en accusant, en procédant par des accusations qui n'ont pas de preuves. Je crois que quand on est invité à des émissions comme ceci, on peut parler des choses beaucoup plus sérieusement et on ne peut pas accuser les gens faussement alors qu'on n'a pas de preuves. Monsieur le ministre Lambert Mende doit arrêter d'accuser la communauté internationale qui doit du reste continuer à suivre la République démocratique du Congo dans le processus de sa démocratisation effective. Et nous en appelons à la vigilance du peuple congolais, mais également de la communauté internationale, dont ses membres, les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, qui ont toujours soutenu la République dans sa douleur d'enfantement démocratique, à nous aider à continuer, et surtout qu'il y a ces derniers temps les violations massives des droits de l'homme, et on doit faire en sorte que tout ça cesse au fin de la démocratisation effective de la République pour gagner le pari de l'organisation dans les délais constitutionnels, des élections et surtout la présidentielle qui doit être convoquée en principe 90 jours avant la fin du mandat du président de la République actuelle, le 19 septembre.
Accompagner la RDC, mais ce qui choque le gouvernement, c'est la manière dont la communauté internationale s'y prend.
Le gouvernement est incompétent, madame. Le gouvernement actuel est incompétent. Il a démontré ses faiblesses, son incapacité à pouvoir résoudre le problème vitaux primordiaux des Congolais. L'insécurité à l'Est, on est l'exemple patent, madame. Donc c'est un gouvernement irresponsable.
Merci, Maître Eric, qui
doit démissionner par ailleurs.
Merci, Maître Eric Bilalé.
C'est moi, madame.
Professeur Moïla, votre conclusion.
Ben, je pense qu'il y a lieu d'appeler à une certaine, disons, vision, à un certain comportement de calme. La République démocratique du Congo est un grand pays. Un grand pays doit savoir raison garder, quelle que soit la tempête. Le discours sur la souveraineté, autant que le discours sur l'ingérence. que la communauté internationale doit être mesurée.
Merci.
Parce que la République démocratique du Congo est dans le monde et le monde est au Congo.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.